podcast France Culture.
Mécanique de la cybermenace, épisode 3, les victimes de cyberattaques. Ça commence comme une panne, car au début, une cyberattaque n'a rien de forcément très spectaculaire. Dans la nuit du 8 au 9 février 2021, les standardistes de l'hôpital de Dax constatent que leur téléphone ne répond plus et que leur session d'ordinateur ne s'ouvre plus. L'astreinte informatique est alertée, mais l'agent n'arrive pas non plus à se connecter à distance et il constate surtout la présence d'un petit fichier, RYK, du nom d'un logiciel de rançon bien connu. Ryuk, à l'origine de la plupart des cyberattaques contre les hôpitaux français pendant la pandémie de Covid-19.
En plein cœur du système informatique, du système d'information.
Nicolas Terrade est le responsable informatique de l'hôpital de Dax. Il nous emmène dans la salle des serveurs.
On est dans la zone critique, la cyberattaque qui a eu lieu le 9 février 2021. C'est ici concrètement que ça s'est passé.
Oui, exactement. Donc c'est ici qu'on s'est réfugié pour essayer de voir un petit peu l'impact sur l'ensemble de notre système. Donc en se connectant directement sur chacun des systèmes, on s'est rendu compte que l'intégralité de nos serveurs avait été impactée. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à comprendre l'ampleur des dégâts en fait. C'est là où on s'est rendu compte qu'on avait subi une cyberattaque totale qui avait impacté l'intégralité de nos données. Ouais.
On entend le bruit des ventilateurs qui refroidissent les systèmes informatiques. On poursuit l'interview plus au calme dans un bureau de l'hôpital.
Alors qu'est-ce qui ne marchait plus ? Qu'est-ce qui marchait ? C'est peut-être la question la plus simple.
C'est peut-être la question la plus simple. Voilà. C'est qu'est-ce qui continuait de marcher ? Eh bien, honnêtement, pas grand-chose. On avait le système informatique qui était complètement à plat, puisque les serveurs centraux étaient eux-mêmes indisponibles, puisque toutes les données étaient chiffrées. Donc à ce moment-là, on s'est jeté, si on peut dire, sur le système de sauvegarde. Et malheureusement, on s'est aperçu qu'il était également chiffré.
Déjà confronté au Covid, l'hôpital fait donc face à un second virus informatique cette fois. Pour éviter une propagation, Internet est coupé, les accès aux autres hôpitaux et à la médecine de ville également. La directrice adjointe de l'hôpital, Aline Gillet-Cobert, est réveillée au milieu de la nuit.
On a pris la mesure de la situation en début d'après-midi lorsqu'on a réuni la première cellule de crise, où là on a invité bien sûr tous les responsables de service et Nicolas a posé vraiment le diagnostic et nous a fait part de l'impact pour notre quotidien. Et là, je pense qu'il y a eu dans l'esprit de tous un instant de sidération parce qu'on s'est demandé mais comment on va faire, quoi ? Comment on va prendre en charge les malades ? Ce qui était le plus difficile au départ, c'est justement ne plus avoir accès aux données historiques médicales des patients. On ne savait pas pourquoi les gens arrivaient, s'ils venaient en consultation, dans quel service, ils n'avaient plus accès à aucun agenda. Certains pour leur rendez-vous, d'autres pour venir être opérés. Donc imaginez, vous êtes programmé pour une opération lambda et le chirurgien n'a pas accès à votre dossier. Donc là, c'était très compliqué. On a essayé de déprogrammer un maximum de choses.
Les urgences sont alors réorientées vers d'autres hôpitaux. Mais la principale inquiétude concerne les patients soignés pour un cancer en radiothérapie. Ils sont suivis en cure pendant une cinquantaine de séances et le traitement ne doit absolument pas être arrêté. Ils sont eux aussi envoyés vers d'autres hôpitaux. Du côté des soignants, le système D a prévalu également. Marion Capoulade est manipulatrice radio.
Alors moi j'ai embauché à 8h, j'étais là partie pour 12h, donc de garde à la radio. Et en fait, donc ma collègue de nuit m'informe qu'il y a eu une cyberattaque et qu'on n'a plus rien, plus de téléphone, plus de dossier patient, plus de liaison entre vos machines de radio et votre liste de patients, entre les urgences et leur logiciel et le vôtre, voilà. Et puis bah, après on a commencé, on s'est géré tout seul, hein, parce qu'il faut aussi réfléchir par soi-même. Donc on a pris des petites feuilles, petites colonnes, nom, prénom, date de naissance, examen, voilà.
Et donc le système informatique, là derrière vous par exemple, il y a deux ordinateurs. Le jour de l'attaque, ils étaient éteints, ils étaient
éteints, écran noir, rien marché. Et surtout, on nous disait de ne surtout pas les rallumer, puisque le virus était encore là et qu'ils n'ont pas eu le temps de l'éliminer. Donc on avait pour condition de n'allumer aucun ordinateur, on avait même des feuilles sur les ordinateurs, ne pas allumer, voilà. Moi personnellement, je l'ai vécu comme une injustice, je me suis dit, mais c'est dégueulasse en fait. Comment on peut faire ça à une population ?
Et tous les soignants avec qui j'ai discuté ont évoqué un sentiment de révolte. Heureusement, l'attaque n'a pas fait de mort, contrairement à ce qui est arrivé à Düsseldorf en Allemagne en septembre 2020. Là-bas, une femme n'a pas survécu à son transfert dans un autre hôpital lors d'une cyberattaque. À Dax, en tout cas, le groupe cybercriminel a bel et bien demandé la rançon, explique Nicolas Terrade.
Oui, effectivement, ceux-là, Ils ne nous ont pas donné des clés de déchiffrement, ils ont bien demandé la rançon. Alors il faut savoir que les attaquants partaient du principe pendant la crise sanitaire du Covid que les données effectivement sur nos patients étaient indispensables pour la continuité du soin aux patients. Donc on était malheureusement une cible plutôt privilégiée pour les attaquants plutôt qu'une cible à exclure. Donc généralement quand on attaque un hôpital, c'est qu'on a de bonnes raisons de le faire.
Oui, mais quand même on a prouvé que finalement ils avaient tort. On peut très bien arriver à continuer à soigner des patients. On a continué, on est debout.
La rançon était réclamée en bitcoin, crypto-monnaie réputée intraçable, mais on verra dans le prochain épisode que ça n'est pas toujours le cas. L'hôpital de Dax a refusé de payer, mais ne communique pas sur le montant qui était demandé, ni sur la faille informatique exploitée par les rançonneurs. Un an après, la quasi-totalité des données a pu être récupérée. L'hôpital estime le coût financier de cette cyberattaque à environ 2 millions d'euros. Un événement loin, très loin, d'être isolé.
Oui, il y a plusieurs sociétés des Landes que je connais qui ont été impactées et qui n'ont absolument rien dit. La direction a même poussé les employés à cacher, à ne pas diffuser l'information. Malheureusement, aujourd'hui, ça, c'est dommageable parce que ça minimise l'impact de la cybercriminalité aujourd'hui à laquelle on doit faire face. Il faut savoir que la cybercriminalité, c'est le vecteur le plus rémunérateur aujourd'hui sur l'Internet et ça n'est pas prêt d'arrêter.
Et dans bien des cas, les conséquences sont dramatiques. Entre 50 et 80% des PME dont les données sont bloquées lors d'une cyberattaque finissent par faire faillite, estime un rapport du Sénat publié en juin 2021, citant des sources américaines et britanniques. Entre 2020 et 2021, le nombre d'attaques aux logiciels de rançon a été multiplié par 4, d'après l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui a envoyé une équipe à Dax pour aider l'hôpital. L'agence est dirigée par Guillaume Poupard, que j'avais rencontré en septembre 2021 au Forum international de la cybersécurité à Lille. Je l'avais interrogé à propos de ces attaques sur le système de santé.
Est-ce que vous diriez que sur ce point-là, on n'est pas au niveau ?
Dans les données sensibles que l'on souhaite protéger, il y a évidemment les données de santé. Aujourd'hui, ces données, elles sont, il y a la volonté de la protéger. Les faits nous donnent tort sur l'efficacité de cette protection. On a vu les hôpitaux se faire attaquer depuis maintenant 2 ans. C'est fou d'attaquer les hôpitaux, mais c'est la réalité avec laquelle il faut qu'on vive. Et donc le fait d'élever le niveau de sécurité des hôpitaux, c'est une priorité, très clairement. Le niveau actuel, il n'est pas 100% satisfaisant, on ne va pas se mentir. L'idée, c'est que ces données, comme d'autres, soient vraiment en sécurité, parce que ce sont des données qui ne sont pas révocables. Mes données de santé, si jamais elles sont compromises, ce n'est pas comme un mot de passe, je ne peux pas les changer. Donc c'est vraiment une priorité pour nous.
Vous avez été en contact avec de très nombreux hôpitaux en France qui ont élevé leur niveau.
Sur la question de la sécurité des hôpitaux, d'abord, on a été en contact avec des hôpitaux qui ont été victimes, donc on les a aidés, et c'est très compliqué. La réparation face à une attaque cybercriminelle dans un hôpital, ça prend des semaines, voire des mois. C'est un travail colossal à mener. C'est de la reconstruction complète de systèmes informatiques, et surtout dans la période que l'on vient de vivre, ils n'avaient pas besoin de ça. Donc ça, c'est le premier contact que l'on a avec eux. Par ailleurs, on a déployé des mécanismes réglementaires pour faire en sorte que ce soit des opérateurs qui aient l'obligation de faire de la sécurité. Donc quelque part, ce n'est plus une option, la sécurité, c'est une obligation. Il y a une vraie prise de conscience. Par contre, il y a un travail colossal à réaliser.
L'ANSSI emploie aujourd'hui plus de 500 agents et elle a dressé une liste d'acteurs privés et publics qui ont l'obligation de se protéger en matière cyber. Ce sont les opérateurs d'intérêt vital et les opérateurs de services essentiels. La liste détaillée est secrète, mais on y trouve les grands acteurs de l'énergie, de la finance, des transports et télécommunications, de la santé ou des médias. Sachant que les attaquants cherchent toujours de nouveaux points faibles chez leurs cibles, la dernière tendance consiste à attaquer les sous-traitants d'une entreprise.
Dans les évolutions de techniques d'attaque que l'on observe depuis maintenant quelques temps, on voit des acteurs qui passent par des intermédiaires pour attaquer, c'est-à-dire qui n'attaquent plus directement leurs victimes, mais qui vont aller piéger un produit, un logiciel, qui vont chercher à rentrer chez un prestataire pour ensuite toucher leur victime finale. Donc une complexification, clairement, des techniques d'attaque, mais qui est plus complexe à détecter et à contrer. Et donc typiquement, ce qu'on a observé cette année, des méthodes qui consistent à attaquer des éditeurs de logiciels pour aller intégrer les virus informatiques, les malwares directement au sein de logiciels légitimes, qui sont achetés et installés légitimement par les victimes finales. Ça, c'est une démarche qui nous inquiète énormément parce que c'est pas forcément très facile à contrer, à détecter. Et malheureusement, ça va se généraliser. En fait, ce sont des attaques qui très souvent, potentiellement, pourraient toucher l'ensemble de la planète. Par ce biais-là, l'attaquant, il piège un logiciel et ensuite il a le choix de ses victimes. C'est tous ceux qui ont installé, malgré eux, des logiciels piégés qui sont des victimes potentielles. Cette année, on a vu surtout les États-Unis ciblés, parce que c'est ça qui intéressait les attaquants, mais ça aurait pu se produire en France. L'exploitation de ces failles aurait pu être réalisée en France. Ça n'a pas trop été le cas, heureusement, mais ça ne doit pas nous rassurer pour autant.
En cas de cyberattaque, l'ANSSI a vocation à aider les services publics ainsi que les grandes entreprises. Pour les autres, le site cybermalveillance.gouv.fr permet de s'orienter. Les victimes peuvent aussi compter désormais sur des services spécialisés de la police, de la gendarmerie et de la justice qui arrivent parfois à identifier, voire à arrêter les auteurs. À suivre dans le prochain épisode.